Et bienvenue à toutes et tous nos auditeuristes, bienvenue à radiolabigaille.org en balado-diffusion. Aujourd'hui en Charente-Maritime, et plus exactement au pays Marennes-Oléron, qui n'est pas connu que pour son goût ostréicole, mais aussi pour ses activités culturelles et diversifiées. Et aujourd'hui, on est là pour une journée spéciale. Attention, breaking news. C'est la dernière de MOTV. Et nous en reparlerons, mais on est là pour ça, on est là pour raconter l'histoire, on est là pour en discuter. On va avoir pas mal d'intervenants, normalement 2 heures de radio libre, en balado-diffusion, en live si tout se passe bien. Marennes-Oléron TV, mais en attendant, on est à la Bigaille. La Bigaille, c'est un lieu de vie associative, c'est coloré, ça sent un peu la bière, ça sent les bonnes envies, il y a toujours du bruit derrière, il y a des gens, il y a de l'envie, et on le fait en captation directe avec radio.labigaille.org. Et j'ai envie de vous dire, qui serait mieux placé pour en parler que l'auteur même de l'histoire de la Bigaille, Thibault Lambert. Non, il l'a juste dessiné. En tout cas, il a pris du temps pour rencontrer les gens qui ont créé ce lieu. Et avant de vous parler de MOTV, on va vous décrire un petit peu l'univers esthétique et artistique dans lequel on se trouve. Bonjour Thibault.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais nous faire une petite description esthétique de notre milieu, bien qu'on soit à la radio, et de ce qui t'a amené à l'écrire, et de ton univers artistique, soit dit en passant.
Ah. Alors, déjà, avant de... Pour revenir sur ce que tu as dit en intro, la Bigaille, c'est les gens qui la composent. C'est les gens qui passent, qui viennent, qui font que ce lieu existe. C'est eux qui écrivent cette histoire au quotidien. Et puis, bah, pour en parler, moi, ce qui m'intéressait dans la BD, c'était de parler de ce lieu-là, mais pas de manière rapide. C'était d'aller vraiment creuser et de voir, de partir du tout début, comment est née l'idée de ce lieu-là. Pourquoi ici? Pourquoi pas ailleurs? Et qu'est-ce qui a fait que ça a pris ici? Et ça fonctionne, et c'est toujours là, et c'est toujours en train de passer d'un projet à l'autre, de grandir, de se transformer au fil du temps, des rencontres.
Au fil des gens, ouais.
Au fil des gens, ouais.
Pour la petite histoire, la Bigaille a fêté ses 10 ans, donc là on parle de quelque chose qui est pérenne. Mais qui vient de tout un univers, on est dans un milieu rural, on n'est pas forcément... un pays qui est ouvert sur la culture au départ, et pourtant il y a eu une graine, il y a eu un moment où ça s'est implanté, il y a eu une bande de potes qui a créé un truc. Et du coup, t'as pris le parti de dessiner ça, t'as pris le temps d'aller les chercher, d'aller en discuter avec eux pour savoir d'où ça vient et comment on peut construire ce genre d'envie.
Bah oui, puis c'était aussi surtout l'envie de donner à d'autres, tu vois, les possibilités de le faire. Et c'est ça que je trouve chouette, c'est un espèce de bouquin didactique où chaque personnage que je suis allé interviewer, alors j'ai pas pu mettre tout le monde dans la BD parce qu'il y a beaucoup 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 de gens qui composent cette histoire de la Bigaille.
Et pourtant c'est déjà une belle BD, quoi.
Et pourtant il y a déjà du monde dedans. Ouais. Mais c'était l'idée de qu'on suive au travers du fil de la narration, un peu comme moi je suis allé voir les gens et que chacun nous apporte une pièce du puzzle. Et aussi que pour montrer que tout ça, ça se fait pas en un jour, que c'est petit à petit, qu'il y a aussi des choses qui fonctionnent pas, qui ont à un moment donné, qui ont merdé, et qui, bah, comment on rebondit suite à ça, et comment justement tous ces petits les petits couacs, ça vient renforcer le projet, ça vient renforcer la cohésion, et de se dire bah non, mais c'est le projet qui passe avant tout, et comment on le fait mûrir. Et surtout, moi je voulais que ça donne envie à d'autres.
Que ça donne envie à d'autres, en transmettre des graines. Et tu pourrais nous donner une petite description rapide de l'histoire de ce lieu, en quelques mots, juste pour avoir une idée, une esthétique de comment des gens sont mis à bosser ensemble pour créer un lieu de vie qui maintenant accueille de la radio, par exemple.
Entre autres. si tu veux, c'est d'abord une réaction. C'est une réaction de se rendre compte que ici, on est sur un territoire qui vit beaucoup... de manière touristique, donc il y a une grosse offre d'activités l'été, et l'hiver il se passe pas grand chose. Et justement c'est face à ça, au lieu de... Puis on est dans un territoire quand même, on est en milieu rural, où pour avoir accès à de la culture, que ce soit des concerts, des expositions, il faut prendre sa bagnole et faire de la route.
Elle est à la capitale. Quoi.
Elle est à la capitale, elle est à la ville. Et du coup, c'était l'idée de... Bah, c'est parti de là, c'est en réaction face à ça. On s'est dit, bah non, au lieu de... Ça fait chier de prendre sa bagnole, de devoir bouger, et au lieu de faire ça, bah, pourquoi pas monter le lieu culturel et faire venir la culture en milieu rural, en permettant aussi à ce que ce soit accessible au niveau tarif.
Au niveau tarifaire, accessible à tous. L'idée étant d'avoir un lieu de vie qui soit intergénérationnel et qui mélange tous les styles et toutes les envies. Et ça marche.
Et ça marche, mais c'est ça qui est formidable. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des publics, c'est pas, et des activités proposées, c'est pas les mêmes publics. Tu vas avoir, quand c'est des concerts le dimanche après-midi sur des soirées plus posées, on est un peu jazzy, on va avoir un certain type de public. Quand c'est des soirées... électro, c'est pareil, ça va être un autre public, les soirées reggae aussi, et tout ça. Et c'est pas forcément des... Ça se croise, ça se croise pas forcément. Ça
ouais, c'est
des...
ça qui est étonnant, c'est ouais, le mélange total. T'as aussi un espace d'exposition, t'as... Ouais. Et tout ça ouvert le week-end. Sur une zone touristique, c'est pas ouvert l'été, donc c'est vraiment pour la population locale. Quoi.
Et que sur du bénévolat.
Et c'est important de le dire, que sur du bénévolat. 10 ans, la structure à 12 ans, ça s'appelle La Grande Échelle, l'association. Et il n'y a pas de salarié.
Non. Non, non, et c'est ça qui est assez fou, tu vois, et pour commencer un peu à diffuser la BD et à partager sur des festivals ou avec d'autres lecteurs, c'est, à chaque fois, c'est le truc, mais comment c'est possible qu'il n'y ait pas de salarié? Tu vois, c'est ce qui pose question.
Ok. Et t'as déjà commencé à diffuser la BD, t'as eu des retours de ce type-là?
Alors, ce qui est très encourageant, c'est que souvent, les personnes qui achètent la BD, c'est parce qu'ils ont connaissance ou alors qu'ils connaissent des gens qui veulent monter ce type de lieu ou qui viennent de monter ce type de lieu. Enfin, tu vois, ce qui sont aussi dans cette démarche-là.
Dans cette démarche citoyenne de créer un lieu commun, de créer un lieu social... Avec une ouverture à la culture, avec tout ce qui va avec.
C'est ça. Et ce qui est, on ne s'en rend pas compte, mais il y en a finalement des lieux comme ça, ou qui, des envies de faire des lieux comme ça, il y en a partout. Mm-hmm. C'est une espèce de truc qui émerge et qui bourgeonne tout partout. Donc c'est bien, ça fait plaisir.
Et tant mieux. Et l'idée de cette BD, c'était justement de donner potentiellement les clés aux gens qui veulent créer ça ailleurs. De dire, bon bah voilà, c'est une utopie réaliste. Ça se fait, il faut faire ce parcours, cette quête.
Et c'est possible.
Et ça marche. Et ben merci Thibaut.
Bien, merci à toi.
Avec plaisir. Écoute, pour continuer sur l'histoire du lieu, on va faire une petite transition musicale qui va nous permettre de laisser la parole aux jeunes du coin.
Sérieux doutes sur le jardin d'Éden. la main sur la plaque pour voir ce que ça fait. Et tant pis quand on chante, s'ils écoutent à peine. Elle dit que les médecins sont des menteurs, qu'on devine à la façon dont ils dessinent les cœurs. Qui a raison, qui a tort? Je m'en fous, moi je n'ai plus peur du monstre caché dans son corps. Cap sur la plage, dans le creux de la vague, on chante encore. On ira voir la mer, quand c'est la merde. Je fais l'autruche, je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe.
La suite de nos événements pour cette dernière et dernière soirée de clôture de MOTV, la télé participative locale. Et en ce moment, on est en direct sur radiolabigaille.org. Et après ces petits intermèdes, je suis toujours au micro, Zach, pour vous et vous donner la parole aux locaux jeunes qui sont dans le pâté de maison qui est au même endroit que la Bigaille, c'est-à-dire le cœur de Bourg. Au sein de la ville de Marennes, en Charente-Maritime. Et les locaux jeunes, c'est un espace de vie qui permet à des adolescents, des enfants du coin, de se regrouper, d'avoir des activités, d'être motivés par une troupe d'animateurs qui leur propose des choses en local, du vrai. Et du coup, on vous accueille pour pouvoir en discuter. Alors, bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce pourquoi vous avez pris le micro ?
Alors bah moi c'est Vadim, en direct de la Bigaille à Marennes, et je vais vous présenter l'agenda du local jeune pour la première semaine des vacances du printemps du 11 au 14 avril.
Cool.
Donc pour le 11 avril, il y a un accueil libre de 14h à 18h. Ensuite le mercredi 12, une sortie au cinéma de 14h à 22h30 pour un film qui sera choisi sur le coup.
Tu sais le nom du cinoche ?
Non.
L'Estran.
Non. Puis le jeudi 13, des jeux de plage comme de l'Ultimate ou du Beach Volley. Ce sera de 14h à 18h. Okay. Et pour la fin, le vendredi, encore un accueil libre. Et pour rappel, sur cette première semaine de vacances, nous vous proposons deux stages, dont un de gaming sur le jeu Street Fighter au local jeune de Marennes. Et en parallèle, au local jeune du Gard, nous vous proposons de créer des contes musicaux africains. Donc là, c'est Mathis qui va prendre le relais pour présenter la deuxième semaine.
Merci, Mathis. Bonjour à tous, je m'appelle Mathis et je vais vous présenter la deuxième semaine des vacances du printemps local jeune du 17 au 21 avril. Lundi 17 avril, défi science, si vous n'êtes pas très chaud, vous pouvez venir à l'accueil libre de 14h à 18h.
Défi science, tu disais ?
Oui.
Ça veut dire quoi ?
Poser
des questions scientifiques, on a des petits jeux
ou... Oui, à peu près, mais on sait pas trop.
Ok. Bingo animateur.
C'est la surprise. Après, le mardi 18 avril, journée où on va à l'île de Ré de 8h à 18h, plus un pique-nique, il faut. Le mercredi 19 avril, Masterchef Coco, on va cuisiner un poulet coco. À 14h, de 14h à 22h, parce qu'on va le manger ensuite. Après, jeudi 20 avril, le futsal, ou sinon, on fait la promenade d'orientation de 14h à 18h. Et vendredi 21 avril, tennis de table à la Bourse Franc et goûter à Marennes de 14h à 18h. Il faut s'inscrire à l'avance.
Ok.
Et j'ai une petite annonce supplémentaire, personnelle et tout. Alors, ceux qui sont intéressés, sur le Delrayon, il y a un club de rugby de 5 ans minimum. Et on peut venir s'inscrire, essayer.
Voilà. Tu connais le nom du club ?
Oui, Oléron.
Les orques d'Oléron. Merci Mathis.
Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Elsa et je vais vous présenter le programme du mois d'avril de la Big Eye. Ce soir, 1er avril, à la Big Eye, nous fêtons la fin de l'association MOTV, Marraine Oléron Télévision, et ceci n'est pas un poisson d'avril. Donc, à 16h30, nous allons nous remémorer les souvenirs de MOTV. 19h30, auberge espagnole, un apéro sera organisé à la Big Eye. Et à 21h, jusqu'à 1h, concert des Mimi Moko. En entrée et en plat de résistance, le groupe Turbo Poulet Crew au tarif de 1 euro. Le vendredi 7 avril, comme tous les vendredis, la Big Eye propose un mode bar pour se détendre et relâcher la pression de la semaine. Samedi 8 avril, de 14h à 21h, se déroulera la journée des associations pour discuter des projets, des problèmes, des questions. Et le soir, de 21h jusqu'à 1h, se déroulera le concert des Drenalines.
Drenalines, groupe de Marraine.
Et vous joueront un rock énergique de leur nouvel album. De 18h à minuit, le mode est activé avec la projection d'un film horreur à SAG le vendredi 14 avril. Film de Simon David qui durera 50 minutes au tarif de 1 euro. Vendredi 21 avril, venez manger des crocs et passez un bon moment à 18h au prix de 1 euro. Samedi 22, un concert de joie avec une musique pop et ensoleillée au tarif de 5 euros de 21h à 1h. Vendredi 28 avril, mode bar et tout le monde sera invité à monter sur scène dans la soirée au prix de 1 euro. Du samedi 29 au dimanche 30 se déroulera un week-end printanier avec un troc de plantes, marché artisanal, vide dressing, défilés, conférences et contes, concerts, bars, restauration. La conférence sera sur l'art d'être amoureux chez les animaux de Vincent Albouy, conte pour enfants. Il était une fois un roi qui n'aimait pas la musique ni la danse, par Cheikh Tijan So. Et pour finir, le concert de Wa Africa avec Cheikh Tijan So et les musiciens de Wa Africa. Qui interprètent la joie de leur composition originale. N'hésitez pas à consulter la programmation des mois d'avril, mai et juin 2023. J'ai fini, alors passez de bonnes vacances et salut.
Merci bien. Et la prog, on peut la retrouver sur le site de labigaille.org, sur le Facebook et tout simplement en venant dans celui associatif.
Bonjour, moi c'est Julie, toujours en direct de la Big Eye. Je vous présente le programme du mois de mai. Nous commençons le vendredi 5 mai avec un mode bar et DJ Roseau de Dub pour animer la soirée de 18h à minuit. Le tarif est de 1 euro. Nous enchaînons avec le samedi 6 mai avec un compte pour les adultes de Justine Devin de 21h à minuit. Le tarif est de 6 euros. Ensuite, le dimanche 7 mai, il y a théâtre Pantagruel à partir de 16h. Le tarif est gratuit. Le vendredi 12 mai, il y a un mode bar scène acoustique. Vous pouvez venir avec vos instruments pour louer ou vous faire des morceaux. De 18h à minuit, le tarif il est de 1 euro. Le vendredi 19 mai, C'est un mode bar pour boire un verre de 18h à minuit, tarif 1 euro. Vendredi 20 mai, le concert Franck. Le style de musique, c'est du blues, du rock et de la soul. De 21h à 1h pour le tarif de 6 euros. Et j'ai une petite annonce personnelle. Je vous attends le jeudi 4 mai à partir de 19h. Rejoignez-moi dans la salle le cinéma de Saint-Genis de Saint-Onge, il y a un théâtre. Le nom de la pièce est Anastasia. Okay. Et on a travaillé dur, donc venez nombreux s'il vous plaît.
Eh ben super, tu peux nous redire le lieu où ça va être la pièce de théâtre ?
Saint-Genis de Saint-Onge. Enfin, c'est à la salle de cinéma de Saint-Genis de Saint-Onge.
Eh ben super, j'espère qu'on sera nombreux. Tu peux nous faire la suite, s'il te plaît ?
Oui.
Comment tu t'appelles ?
Salut, moi c'est Lorenzo, footballeur pro. Je vais vous présenter le programme de la Big Eye du mois de juin. Vendredi 2 juin, comme tous les vendredis, il y a un mode bar à la Big Eye accompagné d'un vernissage malo de 18h à minuit, tarif à 1 euro.
Le dimanche 4, projection de la fabrique des pandémies à partir de 16h, tarif de 3 euros. Vendredi 16, de 18h à minuit, tournade de palais, matériel fourni, bonne humeur assurée, tarif 1 euro. Samedi 17 juin, concert plus déambulation, rendez-vous à 17h à la Bigaille pour en déambuler jusqu'à la guinguette du hangar. De 20h30 à 1h du matin, tarif 6 euros. Vendredi 23 juin, dernier mois de bar avant les vacances d'été et surtout, bronzez pas trop, revenez au mois de septembre pour la reprise à la Bigaille. Dimanche 25 juin, à la Bigaille, à 15h, une assemblée générale à l'association de la grande échelle. Venez nombreux pour découvrir une nouvelle aventure. Et surtout, n'oubliez pas, la Bigaille ne serait rien sans vous tous et tous les bénévoles qui lui donnent vie. Le même jour, un concert à 18h de Desperate Nosery Days, plein de mélodies de toute génération, tarif 6 euros. Bonne journée à toutes et à tous et venez en masse ce soir, 1er avril.
Merci les jeunes. Eh, ça donne envie. Pause musicale.
Soulève, et tiens, d'amour.
Et bon retour sur les ondes de labigaille.org en live and direct pour cette spéciale MOTV, la DER. Et c'est reparti pour une petite histoire sur le fonctionnement et l'importance dans le paysage culturel de Marennes, de ce lieu associatif et de ce télé participative. Et pour en parler, je vais ouvrir la porte et l'antenne à Nico qui va, je pense, espérer nous faire une petite descriptive de la chronologie et de ce qui a amené, le mouvement social et le mouvement intellectuel, j'ai envie de dire.
Ouais, alors du coup, il y a Mathieu et Greg qui sont là aussi.
Ils étaient cachés.
Ouais. Il fallait pas le dire tout de suite.
Non.
Parce que du coup, si tu pars sur la chronologie, c'est le terme que tu as employé.
Ouais, plutôt l'avant.
C'est l'avant chronologie.
Ouais, comment vous vous êtes formés, pourquoi? Tu vois, parce pourquoi que là, on a parlé de la bigaille, là, on a le bruit de la bigaille, on a l'odeur, mais pourquoi MOTV? Qu'est-ce qui a fait que il y a des gens qui se sont regroupés en se disant, putain, il y a un bon truc, ça s'appelle une télévision participative.
Ok. Salut Amélie. tu le sens le moment de solitude. Moi je me suis clipsé, je peux parler de moi.
Ouais, bah c'est le but. Hein. Ouais. Nicolas, tu veux te
c'est
présenter
ce que je fais le mieux, en plus.
Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Qu'est-ce que tu fais?
Plein de trucs. Ouais. Pour MOTV, là, on va dire que j'étais animateur culturel au lycée de la mer de Bourse-Franche-Chapuis, au pied du pont de l'île d'Oléron. Et que j'ai croisé Mathieu dans le cadre de.
Bonjour Mathieu.
Non, d'abord, sur le premier mois où j'ai bossé, il y a eu l'Assemblée Générale de création de Roule ma frite.
Ah, bonjour Greg.
C'est moi qui l'aurais ouvert. C'est le moment où tu crées un poste, donc du coup tu sais pas trop si ton taf c'est d'ouvrir les portes, de parler aux gens, du coup tu restes aussi à l'AG. Donc c'était assez chouette. Du coup, c'est là où je rencontre Greg et Mathieu. Après, on n'était pas dans une période où on s'échangeait nos 06 dans les deux minutes.
Non, mais là, tu viens quand même de parler de trois structures différentes dans le même truc. Donc, c'est un mouvement local qui a fait que cette solution est sortie.
C'est...
Des idées ?
Je sais pas. C'est des gens qui ont envie de faire, en fait, qui sont sur le territoire et qui ont envie de faire. Donc, du coup, je les croise comme ça. Après, je retombe sur Mathieu dans le cadre de Décoléron. Donc, Décoléron...
Tu peux nous décrire ça, Décoléron ?
Une asso... de néo-actif sur l'île d'Oléron au départ et puis après plus sur le pays marin d'Oléron carrément.
Néo-actif
Néo-ruraux
Néo-ruraux actif
Néo-actif aussi.
Donc des jeunes qui s'emmerdent, qui ont envie d'avoir de la culture dans leur territoire rural. Ça.
Et qui récupèrent des salles des fêtes qu'on leur prête, parce qu'il est hors de question qu'on paye.
Pour le moquet des chasseurs.
Hors temps estival. Et du coup, on organise des concerts et des événements culturels et artistiques dans ces salles-là.
Ok, donc ça c'était le but de Décoléron. Quatrième structure dans le paysage associatif avant d'en arriver à MOTV.
Ouais, il y avait ça, du coup, ça s'est créé en parallèle de Roule ma frite, qui était un autre groupuscule, mais ça du coup c'est Greg qui en parlera tout à l'heure.
Ouais, et on est d'accord que tout ça c'était avant 2009.
Ouais, c'est ça.
Avant la bigaille, avant toute structure associative.
Entre guillemets, Décoléron
et culturel.
Se met en pause. Parce qu'il y a une partie du collectif des Colérons qui monte la bigaille, le bar associatif, là, dans le cabinet. Et donc, du coup, l'asso des Colérons, elle reste en veille. En parallèle, du coup, il y a Roule ma frite qui progresse, qui étend son activité et tout ça. Il y a Mathieu au sein de Roule ma frite qui commence à lancer une télé participative qui s'appelle Télé Oléron, je crois, au départ. Une grande idée. Il y avait je crois qu'il y a 4500 euros, je crois, hein, sur un communicant pour trouver ce nom magnifique de Télé Oléron. Et donc, du coup,
Théo.
Avec Greg, ils disent que du coup, MOTV est incubé dans Roule ma frite. Et à un moment donné, MOTV se désincube de Roule ma frite. C'est naissance de MOTV qui, du coup, vient se clipser sur le support Décoléron, l'association qu'on avait mis en dormance.
Okay.
Pour des raisons administratives liées simplement au fait d'avoir le label éducation nationale, je crois, et
Éduc Pop. Donc voilà. On refait une petite mise en contexte. On a plusieurs acteurs locaux qui sont dans des structures croisées. On a une structure qui au départ est plutôt festive et culturelle, qui est Décoléron. Roule ma frite, dont tu vas nous parler, Greg, juste après. Matt qui fait la transition entre les deux et qui émerge et qui commence à créer l'idée d'une télé participative sur le pays oléronais et pas sur le pays Marennes-Oléron au départ. C'est ça le deal. Ok. Est-ce que Greg, tu peux nous en dire plus sur Roule ma frite avant qu'on aille plus loin pour qu'on comprenne bien comment ça s'est construit, puis un peu le paysage local.
Eh ben, nous, on a créé la frite en mars 2007 sur Oléron, parce que pas mal de potes restaurateurs et des collègues à Marseille qui ont monté un premier roule ma frite sur le principe de récupérer l'huile de friture usagée, resto, camping, maison de retraite, fête de village, en porte-à-porte, la recycler en local, mm-hmm. décanter, filtrer et rouler avec dans les véhicules diesel.
Okay.
Et pratique qui elle-même était issue d'un mouvement plus ancien qui s'appelait Roule ma fleur avec le camion pétale,
okay.
qui faisait la même chose à l'époque avec les agriculteurs sur, qui pressaient le tourteau, colza, tournesol, pour mettre dans les tracteurs.
Ouais.
Et mouvement qui lui-même reposait sur les traveleurs allemands et anglais, principalement à l'époque des rêves, à la fin des années 90, qui du coup pourraient être autonomes dans les camions, tournaient déjà à l'huile.
Donc on en était déjà à la croisée des chemins entre culturel et local.
T'as toute cette mouvance, si tu veux, qui arrivait. Et puis moi, professionnellement, je bossais pour Greenpeace avant à Paris. Mm-hmm. Et donc on fait une action à Marseille et on rencontre les gens de Roule ma frite, Marseille. Moi, je leur dis, je veux rentrer sur Oléron, parce que je suis d'ici, d'Oléron. Ils disent, mais ce que vous faites, c'est génial. Quoi. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que vous nous autorisez à le faire? Et donc c'est parti comme ça, en fait. Et donc après, on a commencé à tourner, à faire de l'huile, commencer le camion. La différence qu'il y a eu, c'est que dès le départ, on s'est dit, ça, on va le matérialiser par des salaires et de l'emploi. En fait, c'était un peu le deal dès le départ. Donc nous, on a toujours eu des salariés au sein de Roule ma frite. Ça a vraiment été faire la preuve, par exemple, qu'il y avait des nouveaux métiers qui pouvaient exister. Parce qu'à l'époque, en 2007, quand tu dis aux gens, je vais prendre vos huiles pour rouler avec, si on te regarde, ouais, d'accord.
Ouais, complètement, ouais.
Pas trop. Et puis en fait, en faisant le tour comme ça, bah, tu rencontres un resto, deux restos, trois restos, dix restos qui font tous des trucs super et tu te dis, mais ce serait quand même génial de pouvoir montrer ce que fait le resto A qui est top à son collègue du resto B. Ils ne se connaissent pas forcément, même s'ils sont à trois bornes.
Oui.
Parce que si un pro parle à un pro, ça va avoir plus de résultats que. Et en fait, avec Matt, on s'est rencontrés au rugby. Et alors, moi, je suis journaliste de métier et je lui ai dit, écoute, ce qui serait top, ce serait qu'on fasse des petites vidéos pour représenter ça.
Ok, donc c'est de là. Le deal.
Ouais, c'est comme ça que c'est venu. Ouais. C'est comme ça que c'est venu. Et parce que Matt savait faire, lui, la technique, que moi, je ne savais pas faire du tout. Ouais. Je suis presse écrite à la base.
Ouais.
Et donc, voilà, ça a commencé comme ça avec Matt.
Et Matt, toi, tu es plutôt boîte à outils. Ouais, et outre le rugby.
Donc l'écrit, c'était vraiment pas moi.
Ouais. Ouais. Par contre, les câbles et la vidéo, ça marche. Quoi.
Et par contre, technique, ouais. Ouais. Et puis,
non, mais les 10 ont leur place. Hein. Il faut.
et du coup, on s'est rapproché, enfin on s'est entendu, on a commencé à bosser un peu ensemble, on a fait des petites vidéos. Mais je reviens même un tout petit peu en arrière parce que Greg avait déjà commencé avec Cédric, le président historique de Roule ma frite,
okay,
à faire 2-3 vidéos.
C'était ça, Télé Oléron en fait.
Voilà.
Et donc on a... Télé Oléron.
Ouais, okay. Télé Oléron, c'est l'ancêtre.
C'est ça. Donc moi je suis arrivé, Télé Oléron était déjà lancé sur des petits reportages qui avaient été faits par Greg et Cédric.
Dans le cadre de Roule ma frite.
Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que nous, on est pas mal à être d'Oléron. Du coup, à être partis, la vie, boulot, machin, etc. Certains revenant dans l'île, d'autres ne revenant pas. Et en fait, ce qu'on s'est dit avec Seth, donc le président de Roule ma frite, ce serait bien qu'on raconte à nos potes qui ne sont pas sur Oléron ce qui s'y passe.
Comment ça marche.
Et donc, on a commencé à faire plein de petits trucs, le chantier Robert l'Église, le toilettage canin, un pote, Fab et à son âme, qui réhabilite une tôle, enfin... plein de trucs de la vie, de ce qui se passe, quoi.
Ok, cool. Moi, je et toi, t'as débarqué
avec,
là-dessus
ouais, une culture associative aussi un peu différente, parce que des Colérons, c'était déjà collégial. Déjà pas de président, déjà tout le monde responsable, etc. Donc, puis culture un peu éducation populaire, j'étais en train un peu de me construire là-dessus, on va dire. Et du coup, ça se croise avec Greg, dans tous les cas, dans l'envie et dans le faire. Enfin, on a aussi, je pense... en commun, une énergie un peu débordante, on va dire.
Des valeurs.
Et on commence à faire du Tel Oléron avec des petits reportages. Le colporteur, on avait un DVD qu'on éditait tous les ans sur des petits reportages qu'à l'époque, on faisait tous les deux.
Ok.
Et on commence aussi à se dire, on peut peut-être, pareil, dans l'idée, ce serait bien que ça soit dans le territoire. Donc, comment on finance cette histoire, quoi. Et on a commencé à faire des tournées montées l'été. Dans les campings.
Tournées montées.
À faire des, et c'est là où ça a commencé vraiment le participatif. Parce qu'en fait... moi, je commençais à regarder, j'apprenais aux gamins à faire des petits films, des petites fictions en atelier d'été, quoi, dans les campings.
Sur une journée.
Sur une journée.
La captation en direct avec des gosses.
Écriture le matin, et on commençait atelier, comme, malgré tout à attendre à vers même de l'éducation à l'image. C'était Monsieur Jourdain, quoi. On en faisait sans l'avoir trop conscientisé. Et du coup, petit à petit, ça marche. Moi, je commence à rechercher des techniques. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Je tombe sur une fédé nationale de l'audiovisuel participatif qui existe déjà depuis 15 ou 20 ans.
Ouais, donc déjà des gens qui se sont posés ce type de questions, ouais, quels outils, comment aller chercher
Fédération
des subs.
Fédération nationale des vidéos de pays et de quartier.
La FN
de pays
TVA.
Et de quartier.
Ouais, ouais, qui est venu nous voir.
Maison de quartier, quoi. Ah,
ouais, ouais. Non, c'est la VDPQ.
Alors après ça, c'est le premier nom, c'est la FNVDPQ.
Ah, ouais.
Et nous on est arrivés, on a enlevé le FN. Ouais.
La VDPQ c'était quand même.
Et eux par contre avaient fait un truc, et vraiment là faut les remercier parce que c'est vraiment, je pense, hein, grâce à eux qu'on a vraiment avancé. Ils avaient réussi à choper du financement européen Leader à l'époque, okay, ouais, pour faire un livre blanc, donc avec trois télés, ouais. Aldou. Après, on est devenus potes, en fait, les Basques.
Ouais.
Aldo Darak Vidéo.
Aldo Darak Vidéo, pardon. TV Brez, à l'époque, et des gens du côté d'Orléans. Et où, en fait, ils ont fait un super bouquin qui devait faire 100, 130 pages. Vraiment, bah, si tu veux monter une télé participative, mode d'emploi, quoi.
Voilà. Ouais, parce que l'idée, c'est que ça existe déjà sur le territoire. Comme la Big Eye, des lieux associatifs, voilà, des lieux de culture,
télé
où tu peux faire ça sur un territoire rural, ouais, avec ça, des gens qui sont motivés, ouais, avec des outils.
Et pour ceux qui connaissent, il y a une télé emblématique, c'est Télé Mille Vaches, qui est une des, okay, plus vieilles télé historiques et du coup participative. Et là, du coup, ça rejoint un autre courant qui est l'audiovisuel participatif, qui est issu de la... Au début, il y avait des caméras, c'était lourd en matériel, etc. Et en fait, sur le plateau de Mille Vaches, les Américains laissent du matériel avec des VHS, des caméras.
Ah ouais.
Et des habitants, ils ont appelé ça télébrouette. Et donc, ils allaient filmer des choses. Et plutôt que d'avoir chacun déjà sa télé chez soi à regarder, et ben, ils faisaient des diffusions avec le magnétoscope dans la brouette. Ils se baladaient dans les villages. Et du coup, c'était, la télé devenait sociale. C'est-à-dire qu'elle était vue ensemble. Elle était faite aussi ensemble.
Ouais.
Déjà, la réappropriation de l'image et de l'outil audiovisuel. Et nous, ça fait tilt.
Parce que le délire, si tu veux, c'est plus... T'es chez toi dans ton canapé passif sur quelque chose qui tombe,
exactement,
mais tu vas aller sortir de chez toi,
un outil de
pour rejoindre des potes ou même des gens que tu connais pas, ou dans un lieu comme la Big Eye ou dans une salle des fêtes pour aller voir ce qu'on fait d'autre.
Exactement.
Et coup, là, le truc, c'est que d'un seul coup, ils ont un bouquin où il y a expliqué avec un point A, un point B, un point C, et donc
comment ça
ce
marche,
qu'ils ont dans le crâne tous les deux,
ouais,
les gens peuvent commencer à se l'approprier et comprendre en fait.
Je veux dire les gens, c'est vous tous
nous,
qui étaient
quoi,
autour, ouais,
tu vois,
ouais,
les autres autour.
Genre
je pense que ça a aussi apporté
cinglés,
vachement
quoi,
ça,
ouais,
sur votre entourage. Quoi. C'est, ah ok, en fait, c'est pas leur délire à tous les deux, on capte pas bien.
Et ça
parce,
marche,
que, parce que vous tâtonniez aussi, ouais, vous étiez en train de réinventer une roue qui existait déjà en fait. Et d'un seul coup, vous avez fait, oh putain la roue. Et là, du coup, on a tous compris vers là où vous voulez aller.
Le tiède.
Et puis, ouais, je rajoute un côté bien militant, hein, pour tous les deux. Et du coup, on va sur des manifs à un moment donné. On fait à Paris, etc. On se fait embarquer par les CRS. Bref, je vous revois régulièrement.
Non, mais si c'est d'actualité,
dans les médias,
ouais, 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 voilà, complètement.
Et donc,
bah, quand on n'est pas filmé,
et à l'époque,
on n'est pas sur
et à l'époque,
France Radio,
on fait des interviews. Et petite anecdote, on se fait embarquer parce qu'ils pensaient qu'on était à l'époque là-bas si j'y suis.
Ah ouais,
ouais.
Quel
et ils nous
honneur
ont demandé, ouais, honneur, nous on était trop contents, trop fiers.
Ouais.
Et, vous dites, et du coup, vous avez la carte de presse? Ah bah non. Bon bah on vous embarque. Bon,
oh,
bah, mais ils nous laissent la caméra et du coup, on fait une interview dans le bus à se faire gazer, etc. Et on se dit quand même, c'est con, c'est bien, c'est rigolo. Donc on revient ici.
Parallèle, c'était en quelle année ça?
2019.
Eh, parce que tout ça, c'est sous Sarko.
2007-2010.
Faut pas oublier le contexte.
2009, on est sous Darmanin, ça a pas beaucoup bougé. En fait, hein.
C'est petit
mais,
frère.
Mais on a un peu vieilli, mais on avait 30 tiges en plus,
ouais,
tu vois, à l'époque. Donc 30 tiges, j'ai envie de faire ça.
Ouais.
Sarko, le truc que tu dis, il y a,
ouais,
l'outil.
Tu y vas quoi.
Il,
voilà,
y a même pas de question. En
fait. À l'époque, c'était le démantèlement de l'hôpital public, pas pour info. Ça a pas changé.
Oui, non.
et du coup, on filme. Et après, avec Greg, on fait des diffusions parce que localement, il y a un appui de diffusion.
Ouais.
Parce qu'en fait, où est-ce qu'on diffuse? À l'époque, on diffuse au cinéma d'arrêt-essai local, l'Eldorado.
À l'Eldorado,
voilà,
okay,
c'est ça.
À Saint-Pierre.
Et en l'occurrence, Antoine, qui reviendra dans l'histoire de Beau TV plus tard et qui était déjà dans des Décolérons avant.
Il est derrière.
du coup, on diffuse les films et les productions, on les diffuse au cinéma pour qu'aussi les gens ils aient l'habitude d'aller au cinéma, mm-hmm, et puis se faire une restitution sur grand écran. Bah, c'est aussi autre chose. Pour ceux qui ont participé à Beau TV, on est quand même fiers de pouvoir diffuser à l'écran. Et en fait, on ne regarde pas l'écran, on regarde la tête des gens pour les réactions parce que c'est vraiment ce qu'on...
De l'autre côté.
Ouais, tu
bah
sais ouais, pourquoi ouais, tu le fais et tu as les réactions que...
Et c'est autre chose.
Ouais. Ouais. Et en fait, moi, je me rappelle de cette séance au cinéma où on présente le film, justement, des manifs à... C'était Sous les pavés, la marche de l'Empereur.
Voilà, mmh. Il est toujours en
ouais,
accès libre.
Ouais.
Ouais.
Et du coup, c'est cool, mais à chaque fois, c'est les mêmes gens dans le public. Et qui sont les mêmes militants, qui sont les mêmes copains avec qui on fait à droite, à gauche les trucs. Et on dit, enfin, on ne sort pas de ce cercle. Enfin, c'est chouette, mais l'impact, il est limité malgré tout parce qu'on n'arrive pas à élargir le cercle, quoi.
Ouais.
De discussion, de réflexion. Et du coup, moi, je fonce sur l'idée participative à fond. C'est-à-dire, ça y est, je ne touche plus une caméra. je touche pas le montage et j'apprends à apprendre. Comment on transfère la compétence vers les gens pour que les gens se réapproprient l'outil et casser le côté un peu comme un garagiste participatif, il apprendrait à réparer toi-même ta voiture.
Et donc ça, on est avant 2009. Et c'est
là, on est dans le CESO là. 2009-2010, c'est là.
Création 2009-2010, et c'est la même date de création de la Big Eye, en fait. C'est
ouais, on parlait, je fais ça aussi.
Des mouvements culturels qui se touchent, oui, avec des outils différents, mais l'idée est la même, c'est sortir du petit cercle de potes pour aller chercher des gens, pour aller chercher les locaux, et dire tout le monde peut se bouger,
c'est
et tout le monde y a droit. Alors, c'est ça l'idée.
Ouais,
et puis en plus, après, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans des coins où tout le monde se connaît. Quand tu as des mômes à sortir de l'école, tes courses, machin truc, etc. Ah ouais. Et il y a aussi cette demande de dire, mais cet outil, ce que vous avez, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Il a raison, Nico, de reparler de ça. C'est vrai que c'est un peu un ovni dans le truc, tu vois. Alors, tu avais déjà l'ovni Roule ma frite, là-dessus les autres, ovni des Colérons. Quand tu as eu le concert de hip-hop à Chocre, dernière fois qu'il y a eu un concert de hip-hop à Chocre.
On replace Chocre.
En hiver.
Nord-ouest de l'île d'Oléron.
En décembre.
Il y a, comme on dit ici, Run. Ouais. Il y a Run. Ouais.
Il y aura un concert de hip-hop à Chocre. Non, vraiment, honnêtement, je pense qu'il n'y avait jamais eu.
C'est mal barré.
Donc, si tu veux, il y a eu tout ça qui est arrivé dans le coin. Et c'est hyper surprenant, si tu veux, un peu pour tout le monde.
Ouais.
Et on a vécu des moments assez drôles. Tu te rappelles la réunion avec la commission enfance-jeunesse de la communauté de communes de Marennes.
La compréhension.
Ah ben c'est alors pour déjà la moyenne d'âge, voilà. Et en fait, et quand on a reçu le courrier, le compte rendu de la réunion, qu'on a gardé, alors je ne sais plus où il est, maintenant il est perdu quelque part dans les archives, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient vraiment rien pané. Quoi. Et c'est là où on s'est dit. C'est là où
et vous avez présenté tous les deux.
Ouais. Nous deux dans le truc. Dire, alors attends, si eux ils ne comprennent pas, est-ce que c'est leur faute s'ils n'ont pas compris ou est-ce que c'est nous,
tu vois, on vient d'un autre monde.
Et là, il y a trois personnes qui sont hyper importantes dans l'histoire à ce moment-là qui arrivent, c'est Anto, couturier. Qui s'occupe du service jeunesse à l'époque. Bernard Bureau, qui est animateur départemental. Alors malheureusement, des postes qui n'existent plus, donc pour soutenir le mouvement associatif. Et Emmanuel Durand, qui est chargé de développement à la CAF et qui veut vraiment bosser sur des vrais projets de long terme vis-à-vis de la jeunesse sur les ronds, pas que de l'affichage.
Ouais, de la dynamisation locale.
Et donc, en fait, ça réfléchit. Et grâce à Nico et Hervé, on avait pu faire notre premier grand film qui s'appelle H2O, Mon Amour, avec les élèves de la filière Aqua, sur l'histoire d'une goutte d'eau douce qui descend la Sèvre, problématique forcément qu'on reconnaît aujourd'hui, mais à l'époque, donc ça c'était en 2010, je crois.
Création du SAGE, du coup.
Qui vraiment est un vrai beau moment, je pense, pour tous ceux qui l'ont vécu, pour les gamins qui à la base sont là, nous les cris, pas trop, machin, tu vois, le truc se fait, belle restitution.
Outil,
et en fait, surtout un film qui a gagné un prix, qui s'appelle le Water Prize, et où les gamins, vous les aviez emmenés à l'ambassade à Stockholm, à l'ambassade de Suède à Paris, récupérer leur prix, tu vois.
Stockholm à Paris, c'est énorme.
Et aussi des aquas qui ont, au sein du lycée, aussi des images de gamins qui, un peu en échec scolaire classique, tu vois, de par rapport à des filières, donc c'était les valoriser, et franchement, ils ont fait un boulot de ouf. Et sur des interviews, ils avaient de la niaque, etc., et je pense que même l'image... Enfin, ils ont changé aussi leur image. Les profs ont changé leur image aussi par rapport à eux parce qu'ils ont vu
enfants,
la régularité, le boulot
l'envie.
Et l'envie.
Quoi.
Et puis le boulot au fait, quoi, à la fin. Parce que c'était une restitution. C'était un vrai travail collectif.
Ben après, il y a diffusion. On fait revenir tous les intervenants au salon de la Tremblade.
Ouais.
Aussi.
Avec notre école.
Avec du coup, là, on est sur, je pense, le premier gros plateau télé avec Aldo Darat Vidéo qui vient avec son camion. Et du coup... Il y a, je ne sais plus, 4 ou 5 caméras, des gamins derrière les caméras.
Un camion régie
avec des gamins qui vident caméra 1, caméra 2.
On reste avec les gamins du lycée. Quoi.
Et conditions du direct. 3, 2, 1, c'est parti. Et autour de la table, tu as Benoît Biteau déjà. Ouais. Il est régional à l'époque.
Mais pareil, je pense que c'est leur premier plateau télé en direct, en fait, dans leur vie à ces gens-là.
T'as le président de la chambre d'agriculture.
La chambre d'agri, qui était déjà FNSEA. Refaire une petite mise en contexte, on parle quand même du lycée de la mer qui est à Bourg-Franc, où les gamins viennent du CRU et qui sont liés plus ou moins directement à l'ostréiculture au milieu de la mer et qui n'ont pas une ouverture sociale de ouf. L'aquaculture. Et du coup, toi, Nico, t'es animateur.
Moi, je suis... je bosse
éducateur socioculturel.
Éducation nationale et d'enseignement agricole. Et
là, t'as toujours fait le lien, quoi.
J'ai l'occasion de faire venir de l'éduc pop. En fait, je crois que c'est aussi le terme qu'il faut employer.
Ouais, clairement.
Clairement, il y a de l'éduc pop avec de... Alors, c'est l'avantage de l'enseignement agricole, c'est que c'est plus ouvert que l'éducation nationale. Mais voilà. Et donc, du coup, suite à ce film et à cette présentation lors du Salon de la Tremblade. Il y a un autre film qu'on fait avec les copains d'Aludarak Vidéo au Pays Basque. Et donc, on a un double DVD avec, avec les deux films autour de l'eau.
Ok, cool. Eh ben, merci pour cette mise en contexte et puis pour ce début d'histoire qu'on va continuer par la suite et on va faire une petite pause musicale.
Au revoir à toi.
Au revoir à toi qui rêve encore. Au revoir à toi qui n'est pas mort. Au revoir ma mère, au revoir mon père. Au revoir ma zone pavillonnaire. Au revoir à toi l'ours polaire. Au revoir à tous les bipolaires. Au revoir à ceux qui meurent de froid. Au revoir aussi au Pôle emploi. Au revoir à toi la pop urbaine. Au revoir à toi Marine Le Pen. Au revoir à vous, au revoir la vie. Au revoir à nous, tout est fini. Au revoir à toi planète Terre. Au revoir les plantes, au revoir les guerres. Au revoir l'amour, au revoir la haine. Au revoir à toute la race humaine.
Attention, radio La Big Guy en live and direct. Bienvenue, bon retour. On est là à La Big Guy avec le paysage sonore, avec tous les gens qui vont avec. Et on vient parler aujourd'hui de la DRDDR2 MOTV, Marraine Oléron Télévision, qui, hélas, va tirer le rideau. Et pour ça, pour en parler, on a Matt qu'on a entendu tout à l'heure. Et tu vas nous présenter tes potes, en fait, ça va être plus simple.
Ouais. Alors, vous avez déjà entendu les noms, en plus, c'est pratique. Donc, il y avait Greg que vous avez entendu, Nico, lycée. Vous avez entendu parler de Hervé, qui était le collègue de Nico en Aqua.
Bonjour, oui, Hervé. Bonjour.
Voilà. Et Antoine, du coup, qui est le copain de Décolérons, avec qui on a monté Décolérons.
Ouais, la colite.
Qui était en parallèle sur Roule ma frite et qui a monté l'Estran, le cinéma d'arrêt d'essai, ouais. Où on diffusait. Et puis à un moment donné, on a essayé de rejoindre le local et MoTV, et puis ça s'est pas fait. Et puis du coup, Antoine, il est venu, je l'ai débauché du ciné pour venir.
Entre les deux, quoi. Ouais. Voilà. Mais vous étiez déjà potes, c'était déjà le même milieu.
Oui, complètement. Ouais, okay. Depuis Décolérons. En fait, on s'est rencontrés pour Décolérons. on s'emmerdait sur l'île, il faisait froid. Et
toujours la même idée.
Et ras-le-bol de se retrouver que tous les cinq. Et du coup, on s'est dit, bah, on pourrait inviter des copains. En fait.
Ok. Voilà, ça. Et alors
J'invite aussi. Voilà. Il y a aussi Agathe qui nous a rejoint sur la fin.
Salut Agathe.
Sur la fin, parce qu'elle a pris la suite après nous. Après
salut. Nous. Ouais. Alors, avant de rentrer dans les détails, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est le fonctionnement de l'asso. Mais est-ce que, Hervé, vous pouvez juste nous redéfinir ce que c'est une téloge participative? Quel est l'objectif? Comment ça marche? Quels sont les tenants aboutissants, grosso modo, pour de la vulgarisation et que les gens comprennent bien de quoi on parle?
Hervé, tu n'as que 1h15.
Alors,
et pas de dessin.
Non, on n'est pas filmé, on n'est pas sur France
Télé. La participative, c'était un concept complètement flou qui était surtout dans la bouche d'Antoine et Mathieu. C'est quoi ce truc-là?
Ouais.
Et c'est devenu concret, ça a commencé à être concret avec ce qu'a raconté Nicolas tout à l'heure, avant la
avec
pause musicale,
les gosses, ouais.
C'est-à-dire le film qui a été réalisé avec les élèves d'aquaculture du lycée de la mer.
Et alors concrètement, une téloge participative, c'est quoi? On a des caméras, on va voir les gens,
Eh bien,
tu peux décrire un peu, on est à la radio.
Pour répondre directement à ta question, le meilleur moyen, tel que moi je l'ai perçu, c'est de voir différents acteurs du territoire qui sont venus voir Mo TV en disant, pour prendre le premier des viticulteurs d'Oléron, qui venaient voir Mo TV en disant, voilà, vous êtes une boîte de prod, est-ce que vous pouvez nous faire un film sur l'histoire de la viticulture oléronaise, du phylloxéra à la viticulture bio? Et donc, eux répondaient, hein, je vais simplifier, caricaturer. Non, nous, on n'est pas ça. On vous propose autre chose. On n'est pas une boîte de prod classique. On vous propose, vous êtes les meilleurs ambassadeurs de ce que vous voulez dire. Ouais. Donc, on vous propose de vous former à l'écriture de scénario, à la prise de vue et au montage de films. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre dans ces échanges avec des gens qui voulaient faire des films sur un sujet donné. Et que
c'est
un participatif, ça commence à être là-dedans.
Un outil, un accompagnement, des envies, une dynamique.
Oui, et puis de voir l'effet que ça faisait sur quand le film était réalisé pour prendre, comment il s'appelait, Vinyle, c'est ça, le film sur la viticulture, la réaction des acteurs à la première projection à l'Estran ou à l'Eldorado, au cinéma local, de dire ah ouais, c'est ça. Et alors. J'avais une autre référence, mais qui a été beaucoup alimentée par les propos, on va dire, théoriques dont Antoine Desparva. Moi, je suis un peu cinéphile depuis toujours. J'aime beaucoup le cinéma, le documentaire. Et ça faisait tilt avec, je connaissais l'œuvre de Chris Marker. Et ça faisait référence à, ça ressemblait pour moi dans l'histoire du cinéma combatif, associatif, militant, au mouvement du cinéma Medvedkin dans les années 60-70.
Et là, vous avez le sous-titre qui s'affiche avec les liens bibliographiques pour cette référence que je ne comprends pas moi non plus. Mais
qui consistait
c'est là,
en deux mots.
Vous trouverez tout sur le site labigaille.org.
Ça va être très bref. Qui consistait à l'époque à donner, c'était pas de la vidéo, c'était pas du smartphone, qui consistait à confier des caméras légères à des ouvriers pour qu'ils racontent eux-mêmes leur lutte.
Ok, tu veux enchaîner là-dessus, Antoine, et puis tu peux nous raconter comment ça marchait.
Oui, c'est ça, si on veut parler des films Medvedkin, c'est ça. On est en plein exode rural, on a toute cette jeunesse qui s'enfuit, qui fuit la campagne, qui se retrouve en mode industriel, ouvrier. Les mecs, ils ont des compétences en électricité, on les met à la plomberie. Enfin, on est en plein délire bureaucratique, les usines ouvrent avant que les appartements existent.
Ouais.
C'est là aussi qu'on accueille beaucoup de migrants afin
de
consolider
ça,
cette main d'œuvre.
Ouais.
Et là, l'idée, c'est qu'en fait, on est en train de voir ces gamins. Hein, on est gamins, on a 20 ans, quoi. Qui passent leur week-end, à faire la fête, à picoler. Ouais. Et puis là, on se dit non, faut réagir. Là, jeunesse, sport, culture, faut qu'on les occupe, etc. C'est là, à ce moment-là aussi, que d'énormes moyens sont lâchés dans le domaine de la culture et du sport. Hein.
Jeunesse et sport
y compris. Et puis là, l'idée, c'est ça. C'est on va mettre des caméras entre les mains de ces ouvriers. Et puis, tiens, on va leur laisser raconter leur quotidien, quoi.
Ouais.
Donc, faut imaginer les sketchs, quoi.
Ouais. Et puis, il y a 68 enfants. Hein. les années 68 avec les mouvements ouvriers, etc.
Non, on est même avant, ouais. On est avant, 68 arrive après, ouais.
Révolution
c'est ça,
culturelle, quoi.
Alors, on est chez Peugeot, hein, à Sochaux, à Besançon.
Et donc ça nous fait une mise en contexte, mais toi, t'es arrivé dans le bordel parce que tu connaissais les gars.
Ouais, d'une part,
et que
ouais.
T'avais un passé plutôt cinéphile.
Alors, moi, je suis au Cinoche, je suis au Cinoche à Marraine. Moi, depuis l'âge de 20 ans, même avant, hein, je projette des films. Hein, j'ai passé mon CAP lorsque j'étais étudiant, en candidat libre. J'étais à l'époque, pareil, à fond, bénévole dans un cinéma, RSC à Poitiers, pour ne pas le citer, c'est le cinéma de Dietrich. Pareil, cinéma militant. Après, voilà, hein, on est bon.
On
n'est
pas nulle part.
Ouais, on n'est pas nulle part non plus. Moi, j'avais des gens qui avaient 15 ans, 20 ans plus que moi, qui avaient 35, 40 ans, l'âge qu'on a aujourd'hui presque.
Ils sont toujours là, les gars.
Donc non, on aime bien tout ça, oui. Et puis bon voilà, j'ai plutôt percé dans le domaine cinéphile, c'est clair. Documentaire.
Et donc ils t'ont attiré dans ce monde de tes loges participatives que tu connaissais pas spécialement au départ
Je les voyais faire.
Côté théorique quoi.
Je les voyais faire. On était déjà potes. Je les voyais faire. Je voyais bien Roulement Frites qui était en train de se monter. Je voyais bien Mathieu qui était revenu d'Australie, de Hong Kong. Tu es passé par Hong Kong. Tu avais acheté un kit, de production quoi, une caméra.
Et l'accouchement de Roulement Frites jusqu'à MOTV, ça s'est fait à peu près cette période-là quand tu es arrivé.
Césarienne,
on peut dire.
C'est surtout que ça s'est fait parce que, si tu veux, on avait la double injonction, c'est-à-dire on voulait vivre de ce qu'on faisait.
Ouais.
Et comme c'était, il y avait toujours ce salariat, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les sous, d'où ça vient, comment, tout, etc. Et puis à un moment donné, tu arrives, tu te dis, et même si on bosse beaucoup, on dirait pas, mais avec Matt, à un moment donné, c'est pas possible, tu vois, à deux, de continuer à faire autant de trucs, surtout quand les projets, comme dit Hervé, deviennent de plus en plus techniques. Parce qu'au début, quand tu fais un tournée montée dans un camping, ça demande du taf, c'est du boulot, c'est quelque chose. Mais quand tu commences à partir sur H2O Mon Amour, à animer un collectif, ce qui fait la richesse du truc.
Ouais.
Parce qu'un collectif, c'est comme nous. Il y a ceux qui vont vite, ceux qui vont moins vite, il faut attendre tout le monde, si ça, etc. Et il faut d'autres compétences. Et à un moment donné, Antoine, c'est l'évidence. Parce que, si tu veux, Mathieu, hyper fort sur la technique. Ben non, mais c'est vrai, tu vois, moi pour la partie éditoriale, machin, ça y est, sauf que quand je suis pris avec la frite, sur les réunions, machin, etc., t'es plus là. Matt tout seul, ça va pas. Antoine, et puis du coup, ça se goupille, tu vois,
pour avancer. Rejoint le truc justement pour pérenniser ce salariat et puis pouvoir construire des trucs un peu plus larges.
Et parce qu'en plus, en termes, juste pour terminer là-dessus, si tu veux, pour que tu comprennes bien, c'est qu'en termes de trésor en plus, là où nous ça tombait bien, c'est grosso modo, roule ma frite, comme c'est une activité saisonnière, fait des sous d'avril à octobre. Et après, sur les boulots que tu mènes à l'année, tu peux faire des sous, si tu veux, d'octobre à avril grâce à MoTV. Okay. Et ce qui fait qu'avec l'ensemble, nous, ça nous permettait de vivre. On était 6, je crois, en tout, hein, entre MoTV et la frite à l'époque.
Aussi. Ah oui, entre les deux.
Okay. Ah ouais, c'est là, on était 6 salariés, ouais. Tu vois, donc il fallait enchaîner pour tout le monde.
Et puis c'est un modèle de société aussi qu'on change. Parce que moi, je ne vais pas raconter, mais je suis ingénieur informaticien à la base. Et mon métier avant, c'était... Ouais, exactement. Et mon métier, et mon chef m'adorait pour ça, c'est à chaque fois que j'inventais un nouveau truc, je supprimais 80 postes, quoi. Donc j'ai arrêté.
Donc, tout simplement pour faire l'inverse, on va essayer de créer des postes.
Bon,
exactement.
C'est exactement ça.
Et moi, je suis né dans la culture en 95, montais un premier cybercafé en Bretagne, j'avais 15 ans, tu vois, pour que les gens se réapproprient l'outil informatique libre. Okay. Moi, je viens du monde du libre, de l'accès à Internet, à la culture universelle et tout. Et donc, j'ai fauté à un moment donné par la formation, déformation plutôt.
Oui, la déformation.
De faire toujours mieux, toujours le progrès, toujours plus, toujours plus d'ordi, plus de numérique.
Faire du libre-arbitre, quoi.
Et qui supprime des emplois et qui fait de la casse sociale aussi. J'ai été un peu cheminot aussi. Enfin bon, bref, j'ai eu des histoires.
Cumul.
Mais du coup, j'ai envie de faire vraiment autre chose de ma vie, quoi. Et un autre modèle. Et du coup, ça passe par... OK, j'ai envie de ne pas habiter à Paris.
Ouais.
Métro, boulot, dodo.
Redessiner.
J'ai envie d'habiter dans une région qui me plaît, avec des gens qui me plaisent. Et par contre, il va falloir en vivre, parce que concrètement, il faut quand même manger tous les mois et tout.
Exactement.
Et c'est un peu tout le modèle qu'on a essayé de construire sur toute cette histoire de MoTV, c'est-à-dire comment on arrive à financer le fait de faire quelque chose qui nous semble éthique et d'intérêt général ou d'utilité publique.
Et qui reste un modèle économique.
Qui reste un
modèle associatif.
Et c'est là, en fait, parce que ce que dit Greg, c'est le petit livre vert. Alors autant nous, il nous a ouvert les yeux, autant on les a déposés chez tous les financeurs possibles dès le début. Je pense qu'il est resté parmi les 12 milliards de piles de bouquins qui n'ont jamais été ouverts et qui ont été jetés à la poubelle sans avoir jamais été ouverts. Et du coup, en plus de faire de la confrontation directe, de dire si, je vous assure, c'est une super idée, en fait, on s'est dit à un moment donné, bon, on va le faire. On va le faire bénévolement, on va le faire sur du temps Pôle emploi. Et on va se débrouiller pour trouver des fonds en bossant comme des oufs. Parce qu'on faisait les tours des montées, on en faisait 20 ou 30 dans l'été. Enfin,
ouais, c'est
20 ou 30 films dans l'été, ça envoyait quoi.
Et du coup, là, on en est. Attends,
Vas-y.
Là, c'est la construction de ce vers quoi vous êtes allé dès le départ. C'est-à-dire la construction d'un modèle, d'un mouvement associatif et d'une envie d'aller donner la parole à des gens. Donc, on parle autant de créer une association qui soit fonctionnelle et stable que d'avoir un nouvel outil sur le territoire local qui permette aux gens d'ouvrir leur gueule. Ou en tout cas, de raconter leur histoire.
Ouais,
Ça s'est traduit comment dans les faits? Tu vois, là, vous parliez de H2O, c'était le départ. Mais après, vous avez quoi? Vous êtes allé faire du porte-à-porte? Vous êtes allé rencontrer des gens? Vous aviez déjà ces réseaux?
On essayait de travailler de manière un peu pluriannuelle. Alors, c'est un peu des gros mots, tu vois, mais c'est un peu du plan stratégique, de se dire qu'est-ce qu'on va faire sur cette année, l'année prochaine, comment si. Et puis, avec aussi ce contexte, tu vois, c'est vrai que Copenhague, ça a été un moment important parce qu'à l'époque, on a fait partie des gens qui y croyaient pour de vrai, que cette trajectoire d'un degré et demi, on allait pouvoir la tenir, que ces enjeux carbone, ils étaient vraiment là.
2010, ouais.
2009, COP15. COP15, 2009.
La COP15, nous, on avait 30 ans, on est de 78-80 à cette période, tu vois. Et donc, on se dit, d'un point de vue militant, si nous, notre génération, on ne réussit pas à faire cette bifurcation-là pour celles et ceux qui sont derrière, on va rater. Et donc, quand on réfléchit à Copenhague, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va, nous, comme ça, rejoindre les autres? Ou est-ce qu'on essaye de mêler les deux? C'est-à-dire, on trouve des collègues qui ont un bus, ben le bus, il va rouler à l'huile, et donc on va aller à l'huile.
Et là, roule ma frite, rejoint la télé participative.
Et là, quand on arrive à Copenhague, est-ce qu'on vient juste avec notre gueule, Mathieu et moi, ou est-ce qu'on essaye de réfléchir avec des instits? On a deux copines à l'époque qui sont profs de CM2 à Pierre d'Argencourt, au château, à l'école primaire, et elles nous disent, en réfléchissant, mais comme on fait maintenant, ah, si on faisait des cahiers de doléances sur le thème du climat, que pourraient réaliser les gamins d'Oléron?
À faire remonter.
Et nous, on va aller les donner à l'ambassade de France.
Se rajoute là-dessus le lycée, parce qu'il y a une classe un peu environnement qui fait aussi des cahiers de doléances. Donc on fait primaire et lycée sur le territoire.
Et toi, tu étais dans la boucle au lycée à ce moment-là.
C'est-à-dire que ce que raconte Greg à ce moment-là, c'est comme ça que j'ai connu concrètement la première fois que j'ai rencontré Mathieu. C'est-à-dire, et donc le lien entre vidéo participative et éducation a été immédiat. C'est que j'ai ouvert des yeux comme ça. Nico m'a dit, viens, ils sont en train de tourner dans une école primaire au château d'Oléron, ce que tu viens de raconter. Et j'ouvre des yeux comme ça, je vois une caméra au milieu de gamins avec une maîtresse super motivée qui est en train de faire un parallèle éblouissant entre les cahiers de doléances 1789 et maintenant, vous, gamins, vous allez écrire vos doléances pour le climat
et
ça va être
quoi.
Livré aux délégations à Copenhague.
Ouais. Là, tu t'es dit, vas-y, ça marche, quoi. J'ai envie d'en faire partie.
Et puis voir qu'est-ce qu'était la...
Et c'est
oui,
là
parce que après, a démarré le projet dont Nico parlait sur H2O, mon amour, et le film au Pays Basque sur le partage de l'eau entre la vallée basque et la ville de Bayonne.
Okay.
Et le pouvoir éducatif de la vidéo est extrêmement puissant. Ça a été dit tout à l'heure en termes de...
Et attends, pour qu'on remette un petit peu en contexte, et puis on est quand même dans un milieu radiophonique là. Vous pouvez nous décrire simplement, tu vois, le type de projet, comment ça se passe? Parce que là, tu arrives avec des gamins, tu as un outil de captation. Tu leur fais quoi? Tu leur fais une séquence?
Très brièvement.
Ouais.
D'abord, la question de sous que tu évoques, c'est qu'il y avait...
Ça, c'est en amont, ouais.
Il y avait des moyens. C'était une époque assez faste dans des aides régionales à l'éducation, à l'époque Ségolène Royal, si je me souviens bien. Assez fast. Donc on avait des sous pour démarrer ce projet sur un long terme.
Ouais.
Donc ça, c'est l'aspect sous. Et comment ça se passait? En deux mots, c'était sur le volontariat. Donc il y avait Greg qui venait présenter le projet à des
lycéens, quoi.
C'était pas du tout imposé aux classes.
Okay.
Il y en a qui ont adhéré, d'autres qui n'ont pas adhéré. Et ensuite, ça se découpait en... avec les compétences de journaliste que tu avais, tu leur apprenais l'écriture de scénario.
Ouais.
Mathieu était plutôt dans l'apprentissage de la technique,
captation, quoi,
et moi je faisais le lien entre les contenus pédagogiques sur l'eau, l'aquaculture et ce qui se passait.
Et
avec des rendez-vous réguliers surtout, tu vois, pour installer le truc vraiment dans le temps.
Que ça soit pas une activité en atelier, c'est que les gars s'impliquent dans le fonctionnement, quoi.
Toutes les semaines pendant 18 semaines, quoi.
Et comme a dit Nicolas, tu es
finançable.
Et puis il y a dans l'idée.
Et du coup, tu arrêtes de dépenser de l'énergie et essayer de le financer. Ouais. Tu trouves des ronds ailleurs
Et puis le fond de l'histoire, l'éducation populaire, c'est éduquer la population. Enfin, entre guillemets, c'est que la population, elle s'éduque et qu'elle se débrouille petit à petit.
Lui donner des connaissances pour qu'elle
se démerde. Donc on est vraiment à l'opposé de la consommation d'activité.
Enfin, exactement.
Ça veut dire que forcément, on s'éduque pas en une heure de formation. Non. C'est pas possible.
Non. Et dans le domaine,
on touche juste un petit peu. Et là, l'idée d'entamer des discussions avec l'éducation nationale,
Et donc avec Hervé qui était le parallèle,
à la base. Mais nous, on se faufile dans des financements, dans des choses pour essayer de créer. On rencontre aussi des gens qui sont déjà un peu sensibles à l'éduc-pop, parce que clairement, MoTV, ça a existé dans l'éducation nationale par les profs un peu alternatifs déjà.
C'est toujours l'idée, c'est des gens qui sont moteurs au sein des structures nationales. Exactement. Qui vont amener ce nouvel outil, cette nouvelle façon de voir pour pouvoir l'inclure dans les mouvements scolaires et le faire coller au programme. Mais il y en a, et heureusement qu'il y en a, il y en aura toujours, j'espère.
Non, comme un souligné.
Il est très timide, mais comme Mathieu a beaucoup de charme, Madame B, que nous ne citerons pas, tombe amoureux. Et grâce à cette ouverture au sein du ministère de la Culture, nous la remercions encore.
C'était une ouverture. Très bien. Merci, Madame B.
Mais soit faut coucher pour
le côté éducation, le côté éducation populaire dans.
Non, c'est pas vrai.
Sauvage. Dans le côté. Il y a une aparté là. Dans le côté éducation, c'est vraiment une formation à la citoyenneté. Hein. C'est le fait que que des gamins, des lycéens viennent sur leur territoire interviewer les acteurs, les adultes, c'est vraiment c'est une éducation à la citoyenneté, une éducation politique avec un grand P des plus pertinentes.
Le côté population et politique. Ouais.
Plus le côté qui a été un peu évoqué par Nico, à savoir que des classes professionnelles qui se sentent moins valorisées que les classes générales et l'espèce de pouvoir du micro et de la caméra face à un adulte en ayant fait un empowerment pour eux de prise de pouvoir sur les adultes ça construit la confiance en soi.
Et petit à petit, en fait, on se rend compte aussi que, donc on revient sur l'histoire, mais Greg, il est journaliste de formation, moi je suis plutôt informatique technique, et du coup côté technique, mais finalement pas de l'audiovisuel et pas du métier, du montage, etc. Donc j'ai aussi des lacunes et j'ai un peu appris tout seul au fur et à mesure. Et en montée en compétences, donc il y a Antoine qui vient avec le background culture générale, cinéma, etc. Ouais. Et du coup, on avance. Antoine fait un autre chemin à un moment donné et on se rapproche on trouve Agathe.
Bonjour,
tout le monde, on crée un poste qui est plutôt du coup issu du monde audiovisuel.
Ouais.
Aussi pour ramener parce qu'on a des jeunes web reporters qui se forment, qui ont débuté, mais une fois qu'ils ont débuté et qu'ils ont appris un peu les bases, nos limites de connaissances,
qu'est-ce qu'ils font
c'est quoi les perspectives?
C'est quoi après?
C'est quoi l'après? Et l'après, c'est Agathe. En fait.
Et c'est là-dedans que tu as débarqué.
Et
sans transition, bonsoir.
Salut, l'après.
Et avant Agathe, on n'a pas mentionné tout le travail d'intervention dans les écoles en périscolaire qui a été fait, qui a suscité des vocations de vidéastes, puisque de nombreux, collégiens oléronais sont passés par le lycée d'image Angoulême. Il y en a une récemment qui nous a appris qu'elle postulait à la FEMIS. Pour être donc la prestigieuse école.
C'est rigolo ce qu'il dit Hervé, parce que pour nous, pour les gamins d'ici, la filière audiovisuelle, c'est Angoulême.
Okay.
Et en fait, jusque-là, tu avais un gamin tous les 3-4 ans d'Oléron, notre circonscription qui était là-bas. Et une année, on a eu dans les trois le niveaux différents d'études, trois gamins d'Oléron. À tel point qu'un jour, on se retrouvait en réunion à la région avec quelqu'un qui était de là-bas. Okay. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe dans votre coin là, d'où ça sort ces trucs? D'où on a tant de mômes?
On peut parler du festival Cutback.
Ça fait partie de ces trucs, tu vois, en discussion de bout de couloir, et tu te dis, mais ça marche marche pour de vrai.
Avant du coup d'aller plus loin sur ce côté-là, qui est hyper important, c'est Agathe, tu peux nous présenter comment tu es arrivée dans ce bazar?
Pas du tout, oui. Du coup, moi, je viens plutôt du cinéma, du montage, et je commence à bosser à Paris dans l'industrie du cinéma français. Je me rends compte que ça va pas le faire.
C'est pas un monde idyllique.
Que c'est toujours les mêmes personnes qui ont le droit de prendre la parole via ce médium-là. Ça me frustre pas mal. Et en fait, c'est en mangeant un midi à Oléron avec une personne qui s'appelle Christine Nadreau, qui fait partie d'une association d'agriculteurs et d'agricultrices sur Oléron, qui ont donc réalisé le film Vinyle sur l'histoire de la viticulture et un deuxième film qui s'appelle Les écluses à poissons. Et donc cette Christine, je lui parle en fait de ma frustration vis-à-vis de mon travail dans le cinéma français. Et elle me parle de MoTV.
Elle te dit, dis donc, tu connais pas, nous, on est une tirage participative, tu peux peut-être faire les deux, quoi.
Voilà, elle me dit, mais moi, en fait, je me suis retrouvée à, je sais pas, 50 piges, à faire pour la première fois un film, un long-métrage documentaire.
Ça m'a plu.
Encadré par deux fous furieux. C'était génial,
pas les images,
c'était
là,
incroyable. Ouais. Et on a fait ça, on s'est retrouvés en mode... agri, quoi, avec des grosses caméras, de l'enregistrement son, on a fait tout le montage, c'est nous qui avons diffusé notre film, c'est notre film en fait, on gère, on a tout géré, du scénario jusqu'à la fin.
Et t'es arrivée dans ce projet à ce moment-là, et c'est ça qui t'a...
Non, alors le projet était terminé, mais en tout cas elle me dit ça, et elle me dit, mais je crois d'ailleurs qu'il y en a un qui s'en va, et je me demande s'il recrute pas. Et du coup, je me dis, bon, bah, c'est super, je vais aller m'enterrer sur Oléron. Je sais pas trop, bon, ok. Et je vais rencontrer Mathieu, du coup.
Le métro contre les Chalons,
et,
ça va.
Et au final, je me suis pas du tout enterrée, je suis très contente de ça. Et voilà, ça marche, quoi. Effectivement, c'était un moment de recrutement. Et donc, je suis arrivée là-dedans. Effectivement, j'ai un peu découvert, j'avais déjà un peu... explorer de l'éducation populaire, mais dans d'autres contextes. Et là, je vois en effet que c'est possible, en fait, de faire du cinéma avec une certaine exigence. En tout cas, c'est possible de faire des films à plusieurs. Parce que moi, dans ma formation, j'ai jamais appris ni expérimenté. C'est toujours une ou deux personnes, grand max, qui portent les projets. Et là, on se retrouve à 15, des gens qui se connaissent pas, qui ont des âges différents, des milieux, des classes sociales différentes. Et on prend le temps, en fait, de faire en sorte que ça marche et que les gens s'écoutent et se comprennent. Et on prend le temps de traduire ce qu'ils ont envie de dire sur des choses qui les concernent personnellement, en images et en son. On prend le temps qu'ils apprennent à se servir des caméras. Donc j'ai des souvenirs, en fait, voilà, notamment d'un projet qu'on a fait sur un an, sur comment on vieillit à Oléron, donc avec une quinzaine de participants, participantes. Où au départ, c'était la panique totale, quoi, pour sortir la caméra du sac et brancher la perche et tout ça. Et au final, trois mois après, les participantes passaient au local, prenaient le kit caméra en disant « Ouais, on va filmer au Chassiron !» Et en fait, partaient sans nous, quoi, pour faire leur tournage.
C'est génial.
Donc voilà, j'ai découvert ce truc-là, ouais, qu'effectivement... On pouvait créer une vraie culture de territoire,
ouais.
Avec à la fois du travail collectif et de la diffusion collective aussi par ce médium-là, dont je commençais un peu à désespérer de trouver du sens,
à l'époque. Ouais. Et c'est génial parce qu'on en arrive d'un mouvement de personnes pour arriver à un mouvement associatif, qui en arrive à un mouvement culturel et qui va donner un mouvement artistique, parce que là on en arrive à la question de la qualité, à la question de la cinématographie et à la question de donner les moyens aux gens d'un territoire de parler, apprendre et retransmettre. Et c'est exactement ce pour quoi on est là et pourquoi la Big Eye a été créée. Et je vous propose une petite pause musicale pour aller boire un coup avant de revenir pour la dernière partie.
Any person who alters, forges, knowingly destroys, knowingly mutilates, or in any manner changes this certificate may be fined not to exceed $10,000 or imprisoned for not more than 5 years, or both. Thank you.
the mind's true liberation, Aquarius. Aquarius. When moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius, Aquarius.
Tant mieux, on n'a pas des masses de temps. Et de retour à la Big Guy, live and direct, pour cette dernière de MOTV. Bonjour à tous, je suis toujours Zach. Et j'accueille cette fois-ci autour de la table pour parler de la dernière de MOTV, Marraine Oléron, une télé participative qui, après des années d'activité et de réalité, encore des choses à raconter. Du coup, on accueille Hervé, Francine et André. Hervé, est-ce que tu veux nous faire une petite présentation, un petit truc à dire, un machin ?
Bon, ça fait un petit moment que je suis bénévole dans l'association, à une époque où il y avait deux salariés qui cherchaient à multiplier les personnes dans le CA.
Ouais.
Ils sont venus nous chercher et voilà, l'aventure a commencé comme ça. Et là, je suis venu pour vous lire quelques petits commentaires, petits témoignages qu'on a reçus ces derniers jours.
Tu veux dire, après les années d'activité de MOTV, vous avez reçu des...
Certains. Pour l'occasion d'aujourd'hui, on a reçu quelques petits messages de remerciement de ce qui s'était passé à MOTV, des vies qui ont complètement bifurqué suite au passage à MOTV, quoi.
Excellent. Sortez vos mouchoirs, attention, c'est parti.
Allez, on y va, bébé.
Alors, le premier, c'est de Mathias Simonet, qui est de Sisyphe Vidéo, à Angoulême.
Angoulême.
Je ne sais plus trop ni comment ni pourquoi, mais à un moment dans ma vie, j'ai pris contact avec la Fédération de l'audiovisuel participatif avec l'envie de découvrir ce milieu de l'éducation populaire. Venant d'Angoulême, pour représenter l'association Sisyphe, on m'a tout de suite dirigé vers MOTV. J'ai pris un billet de train et quelques heures plus tard, je me suis retrouvé accoudé à une table de restaurant, les mains dans le jus de crevettes, à parler à un sosie de Vincent Cassel qui s'appelle dans la vraie vie Antoine. On a parlé de cinéma, de politique, et puis on a eu de nombreuses digressions sur nos vies personnelles qui ne seraient pas bon de raconter comme ça, mais qui font comprendre rapidement que tu es chez toi. Alors peu de temps plus tard, quand j'ai rencontré la version beau gosse de Philippe Catherine, qui en fait s'appelle Mathieu, j'ai été contraint d'admettre que ces deux-là avaient beaucoup à m'apprendre. En très peu de temps, pour Sisyphe, l'association MOTV est devenue un grand frère, ou une grande sœur d'ailleurs. Et à chaque fois qu'on a eu des soucis, c'est MOTV qui est venu à la rescousse pour nous aider. Sans parler de nombreux projets qu'on a pu mettre en place par la suite avec ce fameux Antoine et ce soi-disant Mathieu, et puis aussi une nouvelle tête qui se faisait appeler Agathe. C'était rigolo. Merci pour tout à MoTV, pour ces expériences partagées. Voilà, ça c'est le premier témoignage.
C'est mignon. Philippe Catherine.
Alors je vous en fais un autre dans la foulée.
Ah vas-y, vas-y.
Je ne vois pas trop comment te le décrire. J'ai connu MoTV sur une période de stage. Le premier jour de mon entretien, c'était la relâche du côté, sur le côté sérieux. On suit un gros spliff XD. Que de bonne ambiance, et j'ai découvert une vision différente des médias avec eux. Chacun pouvait apporter sa touche personnelle pour améliorer le projet, sans que ça rentre en conflit avec autre chose, et même s'il y avait un conflit, ça réfléchissait en équipe pour le résoudre. Aujourd'hui, je ne retrouve plus ce genre d'association aussi impliquée dans la vie locale, avec cet état d'esprit. Ça, c'était Florian Giraudeau de l'AF Participatif. Alors, j'en ai un dernier. Deux secondes, je retrouve tout ça. Voilà. Hein, très touchant aussi. Salut Mathieu, Sarah, Agathe et Antoine. Merci de l'invitation. Malheureusement, je ne pourrai pas venir car elle bosse. Eh, ouais. Vous proposez un partage de souvenirs, anecdotes dans votre mail alors c'est parti. C'est l'occasion pour moi de vous dire que l'influence de MoTV dans mon existence a été plus déterminante. Je n'ai jamais arrêté de m'intéresser à l'image depuis les années MoTV, même si ça prend une autre forme pour moi aujourd'hui, et c'est vraiment grâce à vous que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Depuis l'époque de prof ou élève, pendant l'atelier que vous aviez animé entre midi et deux au collège du Château et auquel j'avais participé, puis Chronos, puis les deux COI, et puis Cutback, les stages, plateaux, micro-trottoirs et tout ce que j'ai pu faire avec vous à cette époque. Je pourrais vous décrire tous les moments où je me suis trop marré à MoTV, avec vous, avec Marissa, Paul, Lucie, Hervé, Corentin, Arthur, Fred, Christophe, pour l'exclamation. Je me souviens au moment de la COI, quand on s'est filmé en buvant dans le verre que Laurent Fabius avait donné à Paul, quand on a envoyé un mail au faux maire de Grand Village pour l'autorisation de tournage de Chronos, qui se finissait par Xoxo, on se fait une bouffe, un de ses quatre frérots, avec Mathieu en copie. Quand on a eu des fous rires en salle de montage, tellement on était fatigués, quand on a gagné le prix de cutback avec prof ou élève, quand on a commencé à avoir nos premières réflexions écolo pour le deuxième film sur la COI. Et surtout, je dirais aussi, j'ai aussi fait mon éducation politique à MoTV. C'est là où j'ai appris à faire des choses ensemble, à bricoler avec les autres. J'imagine que pour ceux qui étaient là, qui étaient à la barre, l'utopie rencontrait quelques limites matérielles. Mais pour moi, à l'époque, tout cela était incroyable. Quand j'y repense, je ne sais pas ce qui vous a poussé à faire une télé participative à cet endroit, là, au milieu de rien, mais vous nous avez permis de découvrir tout un monde formidable. Je suis en Master 2 de cinéma aujourd'hui et je m'éclate. J'aurais probablement fait totalement autre chose si vous n'aviez pas été là à ce moment-là. Merci mille fois pour tout. Pardon de ne pas être avec vous aujourd'hui. Ce mail est tout petit par rapport à tout ce que j'aurais voulu dire. Merci d'avoir fait en sorte qu'on vous rencontre par hasard. Merci pour l'aventure MoTV. J'y pense souvent, j'en parle beaucoup. Je suis désolé d'avoir un peu disparu sans dire au revoir, mais je pense fort à vous.
Yeah. Et on en arrive d'une histoire avec une utopie citoyenne à un truc où tu as des trentenaires qui étaient là pour se regrouper, pour essayer de monter un truc et développer quelque chose à des quarantenaires qui maintenant ont des gens qui ont appris grâce à eux. Et une retransmission d'une façon de voir et d'une façon de faire et qui fonctionne. Et vous partez, mais l'idée reste. Et l'idée va perdurer. Et c'est mortel. T'as un truc à dire, Greg ?
Ouais, c'était. Merci à Brunel. Non, c'était pour Cutback. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure quand tout le monde était là. C'est qu'à un moment donné, on s'est dit. Toutes ces productions qui sont faites.
Attends, Cutback, juste pour.
Cutback, donc c'est un festival, en fait, où on s'est dit comment est-ce qu'on va réussir à créer des conditions de diffusion.
Ouais.
Un vrai festival pour tout ce qui va être fait, tout ce qu'on a raconté depuis le début tout à l'heure.
Okay.
Et donc, grâce à Anto, comme on disait tout à l'heure, Bernard et Manu de la CAF, et les gérants des cinémas sur Oléron, on a créé ce festival qui a duré 5 ans ou 6 ans, quoi, je ne me rappelle plus. Et où, du coup, donc on l'a appelé Cutback parce que c'est la blague entre Cutback qui est une figure en surf et le cut du montage. Et ouais. Où, en fait, on a eu. C'était vraiment ouvert à tous les gamins du coin. Donc, au début, ça commençait dans le département. Puis dans la région, l'ancienne région, puis la nouvelle région. Et donc, du coup, tu avais tous ces mômes qui venaient et qui faisaient du surf dans la journée, des diffusions. Tu avais 3 séances, ouais. Avec des votes. À son âme, Laurence, qui une copine qui nous avait fait vraiment la remise des prix. Et si tu veux, ça a été des grandes affiches qu'on voit partout. des beaux moments que le bac pour eux, déjà pour toutes celles et ceux qui l'ont gagné, qui l'ont vécu. Et puis du coup, pour nous aussi, parce qu'on était le comité de sélection, et donc on a passé des nuits entières, notamment les premières années. Ah bah ouais, c'est ça, pour les catégories, les sites et tout. Et ah, ça c'était génial. Cutback, c'était fantastique. Quoi.
Et fait par des lycéens.
Ah, c'était ça. Bah, là, Nico nous avait grandement aidés pour la mise en place du contexte. Il fallait que ce soit un projet collectif, réalisé dans un cadre ou scolaire ou associatif, centre de loisirs, tout, etc. Pas professionnel. Parce que ça servait à rien, tu as déjà d'autres concours, Agathe en a parlé, enfin tu vois, il y a d'autres réseaux, c'est pas nous. Et oui, il fallait ensuite que les gens où viennent ou soient représentés, parce que ça représentait un vrai projet sur la durée. Et du coup, c'était hyper beau quand les équipes qui ont gagné, même ceux qui n'ont pas gagné, là, mais quand les équipes gagnaient, qui venaient sur scène, tu voyais tous ces mômes qui étaient là, l'émotion, sur quoi, la belle scène, avec du coup le speaker, la remise des prix, le truc, tu es là, t'es comme chez les grands, en fait.
C'est ça, et le projet qui s'est mené jusqu'au bout, c'est génial. Ouais, et tu vois ce que ça donne, c'est des gens qui vont écrire après, parce que c'est une réalité, quoi.
Ouais, c'est clair.
C'est devenu une réalité. Et du coup, pour en parler de cette réalité, on a deux nouveaux intervenants. Bonjour à vous. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de votre image de MOTV, de ce que ça vous a amené ? Francine, je t'en prie.
Ok. Nous, on est arrivés sur un projet qui était déjà à moitié ficelé, parce qu'on ne vient pas de cette espèce de bouillonnement culturel, campagnard, insulaire. C'est en fait le GEDAC, et donc cette association d'agricultrices à la base, et maintenant qui essaye de faire du lien entre les agriculteurs et la population générale à propos de l'agriculture.
Dont Agathe parlait avec Christine.
Et qui avait envie de faire un film sur justement fixer un petit peu la mémoire des viticulteurs après la crise du phylloxéra. Donc parce que Thierry Sozo avait fait une conférence superbe à l'Eldorado sur justement l'historien local sur la crise du phylloxéra et ce que ça avait représenté pour la région en termes de justement basculement social absolument très 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 important et création de toute cette nouvelle population de petits viticulteurs. Et on a eu envie de justement faire la suite et profiter qu'il y avait encore des anciens qui pouvaient raconter un petit peu la suite, aussi bien pour la viticulture, l'arrivée de la mécanisation, l'arrivée des nouvelles méthodes de vinification, la création des coopératives vinicoles, tout ça. Donc on est parti avec l'intention de parler de tout ça. Et la rencontre avec MOTV, elle s'est faite, comme vous disiez, sur le fait que les outils de réalisation, en fait, ont été pris en main directement par l'ensemble des participants du GEDAR.
Et c'est ça qui est génial. Et du coup, ils sont arrivés avec leur machine et ils vous ont dit, voilà comment ça marche, vous vous débrouillez.
Et quand même, ils nous ont aidés. Parce qu'on savait strictement rien faire. Déjà, simplement au niveau de la lecture, de l'écriture du scénario, ensuite de la gestion des différentes machines, puis du montage.
Puis des interviews.
Donc, André, si tu as envie de plus de dire sur la façon dont l'équipe s'est menée.
Oui, après, on parle de viticulture pour en arriver aux écluses, mais l'idée est la même, c'est de mettre un groupement de personnes qui ont un projet, qui ont une chose à dire et à montrer, et de la mettre en lumière, de donner les moyens aux gens de pouvoir le dire.
Ben, moi, je suis arrivé un peu plus tard, c'est-à-dire que Vinyl était fini, et Vinyl vivait sa vie. Et on arrive sur l'île, et puis très vite, je m'intéresse au GEDAR, et puis paf, ils ont envie de faire un autre film, autre chose. Et donc, très vite, l'idée de faire un film sur les écluses à poissons, on retient l'idée, parce qu'effectivement, il y a là aussi de la mémoire à engranger avant que beaucoup de choses disparaissent. Donc il y a du patrimoine, il y a des choses à dire. Il y avait quand même dans toute cette bande, dont Francine par exemple, un certain nombre d'éclusiers, mais pas que. Donc les Seguin, Émilie Mario, Francine, etc. Et puis ils connaissaient, faisant partie de l'association des écluses à poissons, tous ces gens-là forcément connaissaient tout le monde, quoi. Donc, ça, c'est vrai, pour rejoindre ce que disait Francine, Bah, en fait, ça commence pas par les caméras, et c'est là où moi qui pratiquais plutôt la photo, j'ai été un peu surpris. C'est on a commencé parles, par crayon, ouais. Papier, réfléchir, et vas-y que je te construis le truc. Il est hors de question qu'on démarre sans que vous ayez construit tout votre bazar.
C'est là que les deux loustiques ils sont forts, bah, c'est tout ça, ouais.
Oui, ils ont été sans pitié.
Sans pitié.
Voilà.
On sans est... pitié.
En tout cas, je sais que pour les écluses à poissons, on a démarré.
Mais nécessaire.
On se réunissait à Loumière.
Ouais. Mais nécessaire, ça a marché.
Ah bah forcément, oui.
Absolument,
oui. Après, on a compris que c'était nécessaire. Il y a un truc où ils n'ont pas trop réussi, c'est sur les plans de coupe.
On a dire, les longueurs.
On a un peu fait trop, mais bon. Non, mais... Et donc, c'est vrai que, total, on se retrouve, en fait, pour ce qui est de paroles d'éclusier, on se retrouve avec du matériau pour fabriquer, je sais pas, 5 films, quoi.
Je crois que c'est
23 interviews.
Ah ouais.
C'est du lourd, quoi.
Je connais un auteur de BD qui pourrait vous faire la suite.
Donc, oui, en fait, mais calmos sur les plans de coupe. Non, non, puis on les fera après. Non, ouais. Non, faut commencer. Non, on a tout appris.
Et c'était un bon moment.
Ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Premier tournage, on était à Chassiron. Je ne sais pas si vous voyez le travail. Ah bah, on commence à te mettre une grosse caméra dans les mains. Là.
Et puis allez,
roule ma poule. Oh, purée.
Excellent.
Pour les interviews, ça c'est un point fondamental que tu évoques, et c'est la grande différence par rapport aux médias classiques dans leur financement, c'est que là tu es dans du temps long. C'est-à-dire qu'une équipe de production de n'importe quelle chaîne de télé qui va venir faire un truc sur les écluses, elle va rester 4 jours, machin. Là, tu as tout ce patrimoine. Ouais. Et c'est ça qui est fondamental, en fait. Ouais. C'est ça la vraie différence.
Et c'est ça l'idée.
Et sur tout le travail et sur toute la méthodo, Antoine, il l'a vachement formalisé hyper bien dans le cadre de la branche formation de la FEDE. Parce que tout ça qui est évoqué ici, c'est des documents, c'est des papiers, c'est des méthodes, et ça devient des vrais métiers.
Tu veux dire qu'ils ne sont pas tout seuls, quoi.
Et c'est Antoine a fait tout ce boulot avec les collègues de la FEDE.
Ouais.
Et c'est une vraie formation diplômante maintenant. Ouais. Parce que tu deviens animateur d'un territoire grâce à l'outil.
Au même titre que les associations d'Éduc Pop, au même titre que tous les outils qui existent. Et on pourrait faire une synthèse de tout ce qui vient dit, tout ce qu'il faut retenir. Et c'est mortel. Là, on en est peut-être la dernière journée de MOTV, là, ce soir. Enfin, bientôt ce soir à la Big Eye. C'était un plaisir, c'était un honneur. Merci à vous d'être intervenu. C'est génial. Je pourrais faire une synthèse, je pourrais vous dire plein de trucs, mais je pense qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de valeur. Je préfère vous envoyer un petit son. Et Nico, je pense que tu as un truc à dire. Tu veux dire un truc, Audrey, avant de partir ?
Je voudrais dire un truc. C'est que tout à l'heure, on a parlé du film Vinyl.
Ouais.
Et donc, là, pour déclencher, Vinyl, qui a été commencé à tourner en, je crois, 2013-2014.
Ok. Voilà.
C'est ça, hein. Eh bien, il ressort le 14 avril à Saint-Georges, dans la super salle.
Ouais, la super salle.
Et ouais. Voilà. Il ressort à partir du master. Et donc là, en haute définition, sur le gros écran.
Salle du chez Saint-Georges, ça va envoyer du bois.
Ouais, on a vu l'année dernière Parole d'Éclusier, comme ouais, ça. C'est magnifique. C'est génial. Génial. Alors que je me souviens que la première projection à l'Eldorado de Paroles d'Éclusier, je me demande si on n'a pas fini sur le CD, quoi.
C'est possible. En tout cas, un grand merci à Matt, Antoine, Agathe et à tout le CA, à Hervé, Lolo qui n'est pas là, etc. Sans qui tout ça, ça n'aurait jamais existé. Et grâce à qui tout ça, ça va perdurer. Merci à vous. Et on attend Nico ? On attend Nico ? Parce que... quel meilleur mot de la fin qu'une chanson faite par les potes justement pour parler de ça. Et j'ai rien de plus à vous dire. Merci d'avoir été là. Bonne soirée. Bon la bigale.
Aïe 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 aïe. La bigale.
Ouais, c'est ça. J'ai d'autres paroles si vous voulez. Pour ceux qui... Ouais, on peut brailler à plusieurs carrément. L'objectif, c'est que vous braillez quand c'est en gras. Attention, ça commence très vite. Du boulot, y a rien d'intéressant, alors nous, on va aller se le créer. Ah ! Faut tourner. L'argent, on verra après. Nanana. Il m'a fallu 2 heures pour trouver la cassette. Elle était tombée dans le fond de la barquette. Comme la cam était naze, j'ai tâté la fédé. Ils ont raté les plans, l'important c'est d'essayer. Ah, on est en retard au TV, ils sont tous tarés. MoTV, faut tourner. MoTV, ils sont tous tarés. MoTV, ah, ils ont les yeux carrés. Donne-moi une idée, c'est pour l'inspiration. J'en prendrai bien une autre pour la décontraction. Le participatif, ça rend les gens moins cons. L'anarchiste le prône pour sa révolution. MoTV, ils sont tous tarés. MoTV, faut tourner. MoTV, ils sont tous tarés. MoTV, ce film-là, c'est le dernier. Anana. J'en tournerai bien un autre, mais y'a plus de thunes. Je vais voir les élus, ils ont une sub. Yahoo, c'est radical, c'est eux qui ont la fortune. Putain, ils ont rien compris, c'est redevenu des burnes. Oh, MoTV, ils sont tous tarés. MoTV, faut tourner. MoTV, ils sont tous tarés. MoTV, ah, ce film-là, c'est le dernier. Nanana. Elle est arrivée, elle va tout relancer. Elle a pas que ça à faire, y a des priorités. Ça l'a pas empêché de faire les heures carrées et toujours pas réussir à toute seule les faire payer. MoTV, on est tous tarés. MoTV, faut tourner. MoTV, on est tous tarés. MoTV, on n'en peut plus, on va se coucher. Wouhou! Dédicace au frère Pétard.
Merci Nico. Merci Nico.